L'air, l'espace, la lumière, mieux vivre à l'école.
Être et savoir, Louise Touret.
L'école est un lieu de vie et c'est justement pour cela que les établissements scolaires ont fermé, comme tous les autres espaces collectifs, le 16 mars dernier et qu'un protocole sanitaire rigoureux a été mis en place en mai pour ne pas risquer d'y faire circuler le coronavirus. Et c'est aussi pour cela que le débat autour de l'allègement de ce dispositif occupe tant les esprits aujourd'hui. L'école nous manque. Alors si faire des établissements scolaires des lieux qui tiennent compte de la place des corps, de l'hygiène et de la santé est devenu central dans le contexte post-épidémique, c'est d'abord un sujet de premier plan dans la conception des écoles et leur aménagement au moins jusqu'aux années 50. C'est ce que nous rappelle l'exposition « Bâtir l'école » qui se tient jusqu'au 30 août au musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes, c'est en banlieue ouest de Paris. Précisons au passage que Suresnes est la ville d'Henri Sellier, le père des cités-jardins en France dans les années 20 et 30, et que la commune possède un patrimoine urbain et scolaire notable, mis en valeur dans l'exposition et dans le musée. Précisons aussi que c'est un article signé Sybille Vincent, donc pour Libération, qui nous a incité à nous rendre sur place et qui nous a donné l'idée d'évoquer aujourd'hui cette histoire du bâti scolaire, qui est aussi une histoire de la santé, de la propreté et de l'hygiène, du bien-être et de la place accordée à la nature au profit des enfants. Bien entendu, nous allons également parler au présent, puisqu'au-delà de l'actualité liée à la Covid-19 et à l'organisation du retour à l'école, localement, de nombreux projets visent à repenser l'espace scolaire et ses usages, en particulier dans une perspective d'attention à l'environnement et à l'écologie. Une émission faite maison préparée en collaboration avec Avril Ventura. Anne-Laure Chanel la réalise. Un grand merci à Nasser Moussaoui, OCDM, qui assure la réception de nos appels et permet de fabriquer cet être et savoir un peu spécial à distance. La leçon de choses est signée Sophie Bobert, à qui j'adresse un salut amical. La romancière Julia Deck nous parlera donc tout à l'heure de sa vocation pour le suspense. Rendez-vous en fin d'émission. Nous vous devons cette précision importante. Pour des raisons techniques, cette émission est enregistrée le 10 juin. La situation du déconfinement scolaire est évidemment, vous le savez, amenée à évoluer encore. C'est pourquoi nous avons choisi de nous placer dans une perspective plus large qui consiste à explorer le passé et aussi le futur de l'école. Alors nous sommes quatre derrière nos téléphones. Julien Caon, historien de l'éducation à l'université Picardie Jules Verne. Vous avez, Julien Caon, participé à un numéro de notre podcast L'école à la maison, podcast de confinement, toujours disponible en ligne. Cécile Rivière, commissaire de l'exposition donc Bâtir l'école avec Morgane Méan et directrice adjointe du musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes. Et puis un directeur d'école, Régis Ferracci. Vous êtes directeur d'une école maternelle au Canet, c'est dans les Alpes-Maritimes. On va quand même faire un petit point de contexte avec vous. Il y a en ce moment, on entend s'exprimer un fort désir de retour à l'école et la question est compliquée. Comment vivez-vous ces moments particuliers?
Bonjour. Alors écoutez, j'ai été ravi de retrouver le chemin de l'école moi-même, après presque 3 mois, loin de mes élèves, loin de mes collègues, il faut le dire, c'est important. J'étais heureux de refaire vivre la maison école pour accueillir dans un premier temps des élèves prioritaires, bien entendu, des élèves de grande section dans un premier temps, et petit à petit, des élèves de moyenne et petite section dans un cadre très strict, très défini, mais en ayant la volonté de garder le cœur du métier qui est l'enfant et la relation à l'enfant. Et ce cœur du métier, c'est vrai qu'il avait disparu pendant près de 3 mois.
Est-ce que ça a été une période difficile pour vous et pour les enseignants de votre école? Aujourd'hui, certains disent qu'on en a trop fait avec le confinement. Il y a beaucoup de parents qui s'impatientent parce que c'est vrai que c'est difficile de faire l'école à la maison et de garder ses enfants petits.
C'est un contexte qui nécessite de la rigueur. Je pense que déjà, on est heureux d'être arrivé à cette période-là de déconfinement, de réouvrir. Bien entendu, on n'a pas toutes les cartes, on n'a pas tous les chiffres, hein, tous les statistiques, l'évolution de l'épidémie. On voit que l'épidémie tend à s'éloigner de nous. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Évidemment, on n'est pas dans un monde idéal et parfait où on pourrait accueillir tous nos élèves rapidement. C'est vrai qu'il faut faire preuve quand même de prudence et également beaucoup de pédagogie avec les enfants, puisqu'il y a beaucoup de gestes à apprendre, sans pour cela transmettre de l'angoisse ou de la crainte.
On va revenir sur l'architecture et l'aménagement de votre école, orientée vers le bien-être des élèves. On rappelle que c'est une école maternelle. Mais finalement, cette histoire du corps à l'école, du corps des enfants et peut-être aussi de celui des professeurs, de la circulation des personnes, c'est une longue histoire de l'école. Cécile Rivière, c'est celle qu'on raconte dans l'exposition « Bâtir l'école » avec, et moi ça m'a beaucoup marqué, une histoire de mètres carrés. On en a reparlé à l'occasion du déconfinement, il fallait 4 mètres carrés par enfant et ça a toujours été défini, l'espace qui était dévolu à chaque individu à l'intérieur du bâtiment scolaire de la classe.
Oui, dans l'exposition on montre grâce à une marelle qu'on a placée au niveau du couloir d'entrée de l'exposition, l'espace qui était dévolu à chaque élève dans chaque classe et on remarque une progression. Dans les années 1850, il y a 1m10, et puis plus on avance dans le temps, jusque dans les années 1930, où on arrive à peu près à 2m25, et on voit, on a marqué le dernier morceau de marelle en 2019, qu'on est revenu à 1m, 1m20. Voilà, on voit via cette marelle la progression que l'on a pu découvrir au fil des architectures scolaires en Île-de-France notamment.
Progression et régression dans la deuxième partie du XXe siècle.
Oui, tout à fait. Il y a une régression en lien aussi avec le problème du foncier. Hein. Il a fallu réduire, pas forcément réduire les salles de classe, mais surtout y mettre davantage d'enfants. Voilà.
Mais cette préoccupation de la circulation donc des enfants dans l'école et de la place qu'on leur fait, elle est constante, elle est consubstantielle même de la création de l'école. Comment ça s'est exprimé sur le plan des politiques publiques?
Il y a eu des premiers ouvrages réalisés pour les architectes afin qu'ils conçoivent des écoles. Et notamment, il y a Auguste Bouillon qui, dès 1834, écrit un ouvrage très précis où il indique la taille des salles de classe, la taille des couloirs, la taille des préaux, évidemment les préaux pour les filles, les préaux pour les garçons, enfin la taille des sanitaires, tout était bien bien calculé en fonction de problématiques d'hygiène, de propreté, d'aération et de rationalisme aussi.
Julien Caon, l'école, elle est là pour éduquer, mais aussi pour éduquer à l'hygiène et la propreté, ça fait partie du projet scolaire français?
Tout à fait, on retrouve ça dès le 19e siècle et même avant, mais si on prend la période très contemporaine de généralisation de l'école, on retrouve notamment ça avec l'école de la Troisième République qui se soucie également, on le voit dans l'ergonomie du mobilier des écoles, car on craint notamment la scoliose des enfants. Et puis, on voit également que se renforce ce qu'on peut appeler le culte de l'hygiène avec la propreté du corps des élèves auxquels on fait attention, corps qu'il faut également renforcer par la gymnastique et préserver contre toutes les déviances et notamment contre l'alcoolisme. Et on voit bien que ce culte de l'hygiène passe par un contrôle de celle-ci et l'enseignement également de ce domaine.
Mais on apprend encore à se laver les mains à l'école, alors pas qu'à l'école, mais aussi à l'école. Régis Ferracci, ça fait partie des enseignements de la maternelle.
Ah oui, bien sûr. Hein. Alors moi, dans mon bâtiment, j'ai la chance d'exercer dans une école nouvelle, hein, qui a qu'une dizaine d'années et qui est un peu pilote en la matière. Il y a des sanitaires adaptés hein, aux enfants, à la taille des enfants, pour les petits, pour les moyens, pour les grandes sections. Des robinets partout présents hein, dans tout le bâtiment, très facile d'accès. Et des systèmes pour essuyer les mains qui sont tous les jours entretenus, nettoyés, enfin tous les jours le passage aux toilettes. Alors il ne doit plus se faire justement d'une manière régulière, hein, en arrivant tous les enfants aux toilettes. Non, maintenant, moi, on est plus dans l'idée où les sanitaires et les toilettes sont accessibles en permanence à l'enfant. Et quand il y a nécessité, ben, il peut y aller, ou après une activité de peinture, par exemple.
La question de l'hygiène et du savon, par exemple, dans les toilettes, elle a été soulevée au moment du déconfinement, alors particulièrement dans le secondaire, mais aussi dans des écoles élémentaires, où ces espaces des toilettes semblent peu entretenus, moins entretenus. Je me suis demandé, Julien Caron, je ne sais pas si vous avez la réponse, à quel moment on avait une forme de déprise sur l'hygiène dans les écoles.
Je ne suis pas certain qu'il y ait un moment où on s'y est moins intéressé. Ce qui est plus sûr, c'est qu'il y a un héritage, on va dire, assez lourd de la conception architecturale de ces lieux, un héritage du 19e siècle où, dans les collèges et lycées, on n'entend pas faire de ces lieux des lieux de sociabilité, voire de dépravation. Et finalement, il faut tout faire pour que les élèves puissent y rester le moins longtemps. On ressent ça au fil des différentes périodes qu'on peut étudier dans l'histoire de l'éducation.
Dans l'exposition à Suresnes, ce qui est très présent, c'est à quel point ce souci, qui n'est plus seulement un souci de l'hygiène, mais un souci du bien-être, a émergé d'une façon nouvelle dans les années 20 et 30. Alors ça va de pair avec l'essor de pédagogie nouvelle, elle aussi, on pense à Montessori, on pense à Freinet, mais à ce moment-là également, un souci du plein air, de l'épanouissement de l'enfant à travers une vie scolaire qui serait également tournée vers l'extérieur, Cécile Rivière.
En effet, il y a dans les années 20 l'émergence de groupes scolaires dits d'écoles de plein air, mais ce sont des écoles qui étaient pour des élèves très particuliers. C'était une école dédiée aux élèves pré-tuberculeux qui étaient plutôt rachitiques, très fragiles. Et c'était des écoles dans lesquelles il y avait une pédagogie toute particulière. Et puis, il y avait tout un travail qui était fait aussi sur l'hygiène avec un système de balnéothérapie, de radiothérapie et de siestes très longues en plein air. Et effectivement, le développement de l'activité en plein air. Parce que on savait que pour lutter contre la tuberculose, il fallait faire de la prophylaxie, hein, donc de la prévention. Et donc, il fallait que les enfants soient dans le maximum d'air possible toute la journée. D'où l'émergence de ces écoles à Suresnes, et puis il y en avait une aussi en Pantin.
On a déjà inventé l'école déconfinée, en quelque sorte, une école où on peut avoir à la fois la distance sociale, ça c'est vraiment une expression d'aujourd'hui, mais aussi un air qui circule mieux. Alors ça concerne les écoles de plein air, mais pas seulement.
Alors il y avait aussi d'autres établissements. Dans les années 30, il y avait des établissements qui ont été conçus avec effectivement beaucoup d'espace et notamment des solariums tout en haut des bâtiments avec des grands espaces qui étaient pour les enfants où ils pouvaient prendre le soleil et respecter les distances physiques. On disait pas ça à l'époque, mais on aurait pu.
Puisque vous parlez du soleil, il y a un autre point intéressant auquel on pense pas forcément. Enfin, si, les élèves y pensent souvent, c'est la place des fenêtres. Au départ, les fenêtres des écoles étaient assez hautes et finalement, les voir s'abaisser et permettre aux élèves de regarder dehors a constitué une forme de progrès. Enfin, moi, j'ai tendance à considérer ça comme un progrès, mais ça a été une décision aussi des architectes jusqu'à ce qu'on arrive à des écoles avec des baies vitrées, des grands panneaux mobiles.
Dans les premiers règlements, les fenêtres étaient assez hautes pour éviter que les enfants soient distraits par les vues extérieures. Et petit à petit, au fil du début du XXe siècle surtout, voilà, les architectes ont pris un peu des libertés avec ce règlement et ont créé des grandes fenêtres avec une possibilité aux enfants de pouvoir voir à l'extérieur et parfois de pouvoir s'évader un peu le temps d'une leçon.
Et des systèmes aussi d'orientation, de circulation de l'air. Alors c'est difficile à décrire pour la radio, mais on voit des plans de classe et des maquettes assez impressionnantes avec des ouvertures pratiquement de tout un pan de mur vers l'extérieur. Ça paraît extrêmement moderne aujourd'hui.
Oui, par exemple, il y a un groupe scolaire dans Paris, dans le 13e arrondissement de la rue Cus, où il y avait très grandes baies vitrées qui prenaient toute la longueur du mur vers l'extérieur, qui permettaient d'avoir des salles de classe extrêmement lumineuses. Et puis, je reviens à l'école de plein air de Suresnes. Les salles de classe sont très particulières parce qu'il s'agit de pavillons qui sont distants les uns des autres et qui pouvaient s'ouvrir sur trois côtés. Et avec un système d'ouverture en accordéon, les enseignants pouvaient ouvrir trois côtés de ce fameux cube, ce qui permettait au soleil, à l'air, de pouvoir circuler amplement dans les salles de classe.
Voilà qui fait un peu rêver, d'un côté d'une histoire peut-être plus sombre, mais après tout, tout est question d'interprétation, Julien Caron. On a aussi beaucoup parlé d'écoles casernes pour évoquer l'architecture des écoles. Alors, on est plus dans le secondaire, avec cette idée qu'il y avait une relation entre l'architecture des écoles et celle des prisons. C'est pas moi qui fais le rapprochement au départ, c'est Michel Foucault, en tout cas pour mes lectures. Et l'idée d'une école où il fallait, je ne sais pas s'il fallait punir, mais en tout cas, il fallait surveiller.
En effet, le terme d'établissement caserne ou d'établissement prison revient avec force dans les années 60. C'est aussi l'époque où on dénonce l'uniformité et puis le gigantisme des constructions scolaires industrialisées. Et l'expression semble se propager, en tout cas pendant le mouvement de mai 68, et c'est ce qu'on a retenu la mémoire collective, mais c'est en réalité une critique qui est très ancienne. Par exemple, Victor de Laprade, qui est un académicien, professeur à la faculté de lettres de Lyon, livre une critique vigoureuse en 1867 de ce qu'il appelle le lycée prison, dans un ouvrage qui s'appelle « L'éducation homicide », où il décrit cette architecture des lycées français avec de hautes murailles, ces classes qui ont la température d'un four en été ou d'une cave suivant la saison. Et c'est une critique qu'on retrouve assez régulièrement en réalité, y compris à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Cela tient aussi au fait que beaucoup de ces établissements étaient installés dans d'anciens bâtiments religieux, et notamment des couvents, donc les bâtiments qui étaient cloîtrés. Et puis, il y a en plus de la critique esthétique, une critique en effet du régime disciplinaire de ces établissements, marqué par une stricte clôture, mais aussi des établissements qui deviennent au milieu du XXe siècle de plus en plus vétustes et austères, et en plus surchargés par la progression rapide des effectifs scolaires.
Savoir, Louise Touret. à partir des lois Ferry, donc qui obligent toutes les villes à construire une école, deux architectes vont publier des ouvrages de référence qui vont permettre aux architectes d'avoir des modèles type d'école. Donc il s'agit de Félix Narjot et de César Pompée, qui sont deux architectes de la ville de Paris, et qui vont rédiger des protocoles, des précis d'architecture pour les écoles. Et c'est là aussi où on retrouve les plans exacts, la dimension des salles de classe, la dimension des couloirs, la hauteur des murs, la dimension des toilettes, tout est noté avec précision, ce qui permet aux architectes de faire des bâtiments que maintenant on reconnaît tous. En fait, quand on est devant une école de l'époque, Jules Ferry, on la reconnaît tout de suite parce qu'elle a le même type, la même architecture. Tout simplement parce que les architectes avaient un modèle et ils devaient le suivre, en fait. La République veut montrer son pouvoir sur la France avec les écoles et avec la mairie également. Et souvent dans certains villages, donc on associe l'école et la mairie dans le même bâtiment.
Vous écoutez Être et Savoir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la vie dans l'école, comment mieux vivre à l'école avec plus d'air, plus de lumière, plus aussi d'espace, et pas seulement pour respecter des protocoles sanitaires. Ça peut être aussi pour des raisons environnementales, pour le plaisir du beau à l'école et d'une belle vie. C'était par exemple le projet des écoles des années 20 et 30, qui sont décrites dans une exposition dont on parle dans cette émission qui s'appelle « Bâtir l'école » et qui a lieu en ce moment à Suresnes jusqu'au 30 août. Et c'est un peu aussi votre projet, Régis Ferracci. On l'a dit, vous êtes directeur d'une école maternelle, c'est au Canet. Et cette école, elle a été reconstruite il y a quelques années. Et cette reconstruction, elle a été voulue avec d'autres critères qui sont un peu plus ceux d'aujourd'hui. Lesquels ?
J'ai de la chance, effectivement, d'enseigner dans un bâtiment assez exceptionnel. Les critères qu'on avait mis en avant lors du choix du projet des architectes, en premier lieu, alors évidemment, c'est le point de vue du directeur, mais c'était la sécurité que le bâtiment pouvait apporter. Par exemple, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas d'escalier, avec des petits escaliers égale danger, on le sait tous. Également, en tenant compte des risques, nous, sur les Alpes-Maritimes, les risques sismiques, c'est bien entendu, mais également tous les risques chimiques, les risques bactériologiques, les inondations, les tempêtes. Donc on a un espace réservé, une pièce dédiée au confinement des enfants, pour se mettre à l'abri en cas de danger à l'extérieur. Et on l'a déjà utilisé, malheureusement, plusieurs fois, cette pièce. Donc, le critère de sécurité fondamental, mais également ensuite la circulation des élèves dans l'établissement. Donc, des grands couloirs, des grands espaces, beaucoup de lumière, des espaces qui permettent de se retrouver, mais aussi à l'enfant, quelquefois, de s'isoler. Et c'est vrai que c'est une très belle réalisation.
Que je n'ai pas eu la chance de visiter pour le moment. Vous êtes dans le sud de la France, on parle de lumière. Comment on fait pour gérer la question de la chaleur ? Beaucoup d'enseignants et de parents se plaignent de la chaleur extrême qui peut régner dans certains bâtiments scolaires. Est-ce que cette question climatique, vous l'avez pensée en concevant, enfin c'est pas vous tout seul, on le sait bien, mais je parle avec un vous collectif, en concevant cette nouvelle école au Canet ?
Ça a été intégré au projet parce qu'on a pensé le projet en termes de maison bioclimatique. On voulait une école bioclimatique, c'est-à-dire que on était, donc moi j'étais par principe opposé à tout ce qui est climatisation. Alors on a par exemple des toitures végétalisées pour diminuer la chaleur. Le bâtiment a été construit en ciporex, matériau très isolant. Et également, alors là c'est un peu le point fort du bâtiment, on dispose d'un puits provençal. On peut appeler ça aussi un puits canadien, c'est-à-dire une ventilation naturelle qui utilise la terre, la géothermie, pour refroidir ou réchauffer toutes les pièces de l'école en permanence et avec un renouvellement constant de l'air qui est filtré, et ça d'une manière tout à fait naturelle. Et ça fait que dans le bâtiment, écoutez, on a toujours une température idéale. On a affronté à l'époque déjà la canicule de 2003. C'est après avoir vécu ça qu'on a dit la prochaine école, il faudra qu'elle prenne en compte ce risque canicule. Et donc la commune a choisi ce principe de puits canadien. et c'est une belle réussite.
Alors on peut indiquer que de nombreuses villes tentent de reverdir leurs cours d'école. On en a déjà parlé à l'occasion d'une émission sur la nature. Alors c'est le cas aussi dans certains établissements parisiens, également pour lutter contre les effets des canicules. Julien Cahon, cette histoire de reverdir, de mettre aussi des potagers dans les écoles, de rapprocher l'école de la nature, est-ce qu'elle est complètement contemporaine ?
Elle est contemporaine en tout cas du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, et on voit un certain nombre d'établissements, notamment dans le premier degré, posséder notamment des jardins ou quelques espaces verts. Mais en tout cas, c'est peut-être aujourd'hui un aspect qu'on redécouvre dans les établissements scolaires. Et dans la conception des prochains établissements scolaires, les paysagistes ont désormais en tout cas toute leur place dans la manière de réfléchir, de penser les futurs établissements. Il y a un exemple dans les Hauts-de-Seine où le département prévoit de construire un nouveau collège à Malakoff, où l'intégration de l'établissement a été pensée dans son environnement naturel. Et on voit notamment cette tendance qui est très forte à partir également des années 60-70, justement en réaction à la construction d'établissements industrialisés où on n'a pas forcément pensé cette inscription des collèges et des lycées dans l'environnement naturel.
Cécile Rivière, sur la place de la nature, il y a de grandes fluctuations historiques, c'est ce que montre aussi l'exposition, sur la place accordée aux arbres, à un potager, à une cour qui pourrait être un lieu plus naturel que la cour qu'on connaît majoritairement, qui est plutôt goudronnée avec quelques arbres.
Je vais de nouveau prendre l'exemple de l'école de plein air. C'était une école où il y avait près de 2 hectares de nature. Il y avait un maximum de nature par rapport au bâtiment. Et ça permettait aux enfants d'avoir un petit espace de jardinage qu'on appelait pavillon de verdure, qui était adjoint au pavillon de classe. Et puis les enfants pouvaient y cueillir des fruits, y récolter des légumes. Enfin voilà, tout l'aspect nature, découverte des saisons faisait partie du programme pédagogique de ce type d'établissement dans les années 30.
Mais ce sont des établissements qui coûtaient plus cher que les établissements classiques. Ça nécessite un investissement et une volonté qui est une volonté politique, au fond.
C'était clairement une volonté politique, mais il y avait aussi le besoin criant d'avoir ce type d'établissement pour éradiquer le fléau de la tuberculose, pour éviter qu'elle progresse.
Donc on revient à un contexte épidémique. Évidemment, on ne peut pas connaître l'avenir de l'épidémie de Covid-19. On espère que cette maladie n'a pas beaucoup d'avenir. Mais tout de même, les écoles peuvent aussi changer. Alors on a entendu, il y a cet exemple d'école maternelle au Canet dont nous parlons aujourd'hui. Mais il y a d'autres écoles qui doivent évoluer, parce que ces écoles des années 60 et 70, parfois avec des éléments préfabriqués, ce qu'on a appelé les écoles Payron, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles sont très polluées, par exemple à cause de la présence d'amiante. Julien Caron.
Oui, alors dès l'époque des années 60-70, c'est en effet ce qu'on appelle l'époque des constructions industrialisées sur des plans types, qu'il faut remettre dans son contexte. C'est une vague très importante de construction de collèges, dans une moindre mesure de lycées. C'est aussi l'époque de la massification du second degré. C'est en quelques années 1 million de collégiens supplémentaires. Le nombre d'élèves dans les lycées double en quelques années. C'est l'époque où, d'après le slogan du gouvernement, il faut construire un établissement par jour. Et en moins d'une dizaine d'années, sortent de terre plus de 2300 collèges. Donc il y a un défi démographique très important à relever. Et l'éducation nationale doit donc construire beaucoup, doit construire très vite, en quelques mois, et doit construire à moindre coût également. Alors la conception du bâti scolaire est très rapidement critiquée pour sa qualité architecturale, environnementale. Elle est vue comme un frein également aux innovations pédagogiques qui sont prônées dans les années 60. Mais c'est en même temps une période de réflexion et d'expérimentation C'est le moment où on réfléchit également pour améliorer le système.
Améliorer le système, certes, mais je reviens tout de même à ma question sur aujourd'hui des écoles dont on ne sait pas si les sols sont éventuellement pollués. On manque d'informations sur ces sujets.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un problème qui est relativement méconnu par l'opinion publique, mais qu'il y a des cris d'alarme réguliers dans les médias, en particulier de l'association Urgence Amiante École, notamment. Il y a eu plusieurs rapports parlementaires également sur justement la présence d'amiante dans les établissements scolaires. Et on estime que 85% des établissements scolaires sont susceptibles d'en contenir aujourd'hui parce que 85% d'établissements scolaires ont en partie été ou contiennent un bâtiment qui a été construit avant 1997. Il y a une enquête de 2016 de l'Observatoire national de la sécurité, qui va bientôt être supprimé d'ailleurs, qui a fait une enquête sur un échantillon d'environ un tiers des établissements scolaires français, qui montre que 77 à 80% des lycées généraux, technologiques ou professionnels contiennent de l'amiante, 73% des collèges et 38% des écoles. Donc c'est des chiffres qui sont assez alarmants. Il y a une autre étude plus récente de Santé publique France, hein, qu'on connaît bien maintenant, qui date de 2019, qui montre que les professeurs sont surexposés à ce risque et sont surreprésentés également parmi les cas de ce qu'on appelle le cancer de l'amiante.
Voilà qui ne va pas rassurer les enseignants et les parents qui nous écoutent, Julien Caon. Régis Ferracci, vous vouliez faire rupture avec cette époque en créant une nouvelle école sur le même site qu'une ancienne école dont le bâtiment datait justement des années 60.
Exactement, hein, ça a été le défi, hein. Partir d'une école type Aéron, hein, vous avez parlé d'amiante, hein, évidemment, on avait accès à des diagnostics, on savait que dans les carrelages, etc., dans les colles qui étaient utilisées, il y avait une petite quantité d'amiante. Et quand on a conçu, on a dit à un moment donné avec la commune, il faut raser ce bâtiment-là et faire autre chose, autrement, et en sachant que la durée de vie d'un bâtiment, hein, administrativement, c'est une trentaine d'années, mais ça dépasse généralement le demi-siècle. Donc il faut penser aux générations futures. Alors mon école est labellisée haute qualité environnementale, c'est-à-dire qu'elle pourra être entièrement recyclée. Et vous voyez, ça a été pris en compte dès l'élaboration du cahier des charges.
Cécile Rivière, on est frappé par la pérennité, au contraire de ces écoles des années 60, par la pérennité des écoles du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle d'ailleurs, ces fameuses écoles de la Troisième République en briques qui peuvent s'avérer parfois un peu étroites, mais qui résistent très bien.
Il faut dire que ces écoles ont été construites dans toute la France à partir du début des années 1881, suite aux lois Ferry. Et c'était l'œuvre de la Troisième République d'installer vraiment ce modèle d'école dans toute la France. Et effectivement, ce modèle d'école, il est conservé parce qu'il a été relativement bien fait, même si petit certainement pour aujourd'hui. Mais par exemple, dans Paris, ces groupes scolaires ont été créés souvent dans des parcelles un peu étroites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît tout de suite une école de la Troisième République en briques, avec le côté école de filles, école de garçons.
Et la devise républicaine inscrite sur le fronton de l'école, ces bâtiments durs comme une certaine idée de l'école. Julien Caron, je ne sais pas si vous me voyez arriver avec mes gros sabots, mais est-ce que il n'y a pas une permanence qui va bien au-delà de l'architecture? C'était un modèle d'école presque total, qui était une proposition à la fois scolaire qui perdure beaucoup dans l'esprit des Français. On dit toujours instituteur et institutrice. Ce statut n'existe plus sur le papier, hein. On peut plus devenir instituteur ou institutrice. On devient professeur des écoles. Et on a toujours cette image de l'école pour beaucoup d'entre nous, soit associée à la mairie dans les villages, soit insérée dans le bâti et les rues des grandes villes.
C'est en quelque sorte la puissance du mythe Jules Ferry, même si en effet la Troisième République a vu l'émergence d'une vraie architecture scolaire spécifique, mais il faut aussi rappeler que les lois scolaires de la Troisième République, et en particulier sur les constructions d'écoles, s'inscrivent aussi dans la continuité d'efforts précédents qui vont être amplifiés et généralisés. Et vous l'avez rappelé, hein, c'est la grande époque, hein, de ce qu'on a appelé la construction des palais scolaires ou bien des mairies-écoles qui sont construites également sur des normes standards en fonction d'un recueil de plans modèles d'un architecte qui s'appelle César Pompée. Donc il y a toute une standardisation aussi quelque part de ces écoles. Mais sur le 19e siècle, on peut dire que le 19e siècle, avant les lois Jules Ferry, a été celui où s'est affirmée la nécessité aussi d'avoir un lieu spécifique pour enseigner. Parce que quand la loi Guizot, en 1833, impose pour la première fois aux communes l'obligation d'entretenir une école élémentaire, pour les garçons tout d'abord, beaucoup de communes font le choix de louer ou utiliser tout simplement un local quelconque, existant, qui a bien souvent d'autres fonctions que la salle de classe. Et il est très fréquent que le logement d'instituteur se confonde avec la salle de classe. C'est pour ça qu'on parle de maison-école. Et c'est aussi à cette époque que se généralise une méthode d'enseignement qu'on appelle la méthode d'enseignement simultané.
Qui est celle que nous connaissons, en fait.
Qui est celle que nous connaissons, exactement, qui va peu à peu remplacer le mode individuel où désormais tous les enfants sont réunis par groupe sous l'autorité d'un maître. Donc c'est aussi à cette époque que se développe, pendant le 19e siècle, le modèle un maître, une classe et une salle.
Est-ce que ces écoles représentaient un investissement important pour les communes, puisque c'est les communes qui payent pour les écoles. Ensuite, on passe à d'autres échelons pour les collèges et les lycées. Julien Caron.
Les écoles et les bâtiments scolaires ont toujours représenté et représentent encore un investissement financier très important. Et si la construction d'écoles a été très progressive et ne s'est pas faite tout de suite après les lois Guizot, et qu'elle s'est faite surtout avec les lois Ferry, c'est aussi parce que l'État a mis en place tout un ensemble de textes réglementaires et notamment financiers. Et donc, il y a une vraie volonté politique pour construire des écoles. Il y a notamment, c'est l'époque de la création de la Caisse des écoles, qui est abondée par l'État de 60 millions de francs. Et il y a également des prêts qui sont facilités à la même hauteur. Donc, l'État, en réalité, a toujours participé par le biais de subventions à la construction des écoles.
Régis Ferracci, du côté d'un directeur d'école, comment on arrive à convaincre, ou est-ce que c'est d'ailleurs vous qui avez dû convaincre des communes de trouver de l'argent à investir dans les bâtiments scolaires? Est-ce que votre école, par exemple, elle a coûté cher? On imagine que ça coûte forcément un petit peu cher de reconstruire une école.
Oui, alors ça a été dit, évidemment, c'est une décision politique, mais le choix ensuite du bâtiment et de son coût, c'est le conseil municipal qui vote. Moi, je cite toujours, parce que je discute énormément avec le maire et avec ses adjoints, je cite toujours la déclaration des droits de l'enfant, qui dit que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même. Si c'est le meilleur d'elle-même, à un moment donné, le côté financier, il doit un petit peu s'estomper. On part sur un projet, on part sur un objectif, on choisit un projet. Alors évidemment, pour mon école, je sais que ça a avoisiné les 5 millions d'euros. Mais c'est une décision pour l'avenir et pour le bien des enfants et des concitoyens de la commune. Le côté financier ensuite, quand on construit mal des écoles ou quand elles sont mal conçues, c'est pour 30 ans, 40 ans. Et ensuite, en termes aussi d'entretien au quotidien, ça représente également un coût.
Et c'est là où on peut de nouveau faire un parallèle avec la situation actuelle, parce que pour accueillir de nouveau les enfants à l'école, il a fallu employer suffisamment d'agents pour désinfecter les locaux, avoir suffisamment de personnel pour encadrer les enfants par petits groupes, y compris sur les temps non scolaires qu'on passe à l'école, par exemple à l'heure du déjeuner, quand la cantine a été assurée, etc. Donc c'est tout un tas de dépenses pour les communes. La question que je me pose souvent, c'est est-ce que les citoyens français votent aussi en fonction de ces questions?
En tout cas, le fonctionnement des écoles, leur entretien reste à la charge des communes. Et c'est forcément un élément important des programmes communaux. Et ça, on le constate aussi historiquement, dès la fin du 19e siècle, dès l'entre-deux-guerres, les programmes municipaux comportent une partie sur les questions scolaires. Et donc, c'est un élément important.
Dans l'exposition au musée d'urbanisme de Suresnes, on voit aussi des adultes dans les écoles lors d'inauguration. Alors, on voit des bâtiments, il faut le redire, pour parler un peu de cette exposition, il y a des films d'archives, on voit des photos de bâtiments scolaires extrêmement beaux qui comportent parfois des piscines, ce qui peut paraître assez surprenant avec des yeux d'aujourd'hui, et aussi des maires, des députés qui sont fiers de présenter ces programmes de bâtis scolaires. Est-ce que c'était politiquement un grand sujet?
Pour Henri Sillier, l'arrivée, la construction d'un nouveau groupe scolaire, c'était pour lui extrêmement important. Tout au long de ses mandats, il a vu se construire un nombre important de groupes. Et puis, il était extrêmement attentif aussi aux nouvelles pédagogies et il voulait absolument que dans ces nouveaux groupes scolaires, il y ait des tentatives d'enseignement un peu liées aux méthodes de Montessori, aux méthodes développées par Célestin Freinet. Enfin, il était très très attentif à la question scolaire et pour lui c'était primordial. Ça a compté pour ses réélections successives, hein, parce que Sillier a été maire de Suresnes à partir de 1919 jusqu'en 1941. La création de ces groupes scolaires a fait partie du succès de ces élections, c'est évident. Et puis, il faut rappeler aussi que, et là on prend le contexte d'aujourd'hui, il a été ministre de la Santé à partir de 1936. Du coup, voilà, il était au cœur des questions sanitaires et d'hygiène aussi, au sein de la ville et aussi, surtout, au sein des écoles.
Voilà, avec le gouvernement du Front populaire et un lien qui n'était pas neuf, hein, dont on sait qu'il a toujours existé, mais un lien renforcé entre la santé, l'architecture et parfois l'école via ce ministère, évidemment. Alors aujourd'hui, l'architecture scolaire intéresse toujours au sein du ministère de l'Éducation nationale. Après tout, on n'a pas encore parlé du ministère, mais certains projets sont mis en avant à travers une plateforme. Archiclass, c'est vous qui m'en avez parlé, Julien Caron. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
La plateforme Archiclass, c'est une plateforme qui a pour but d'intégrer l'utilisation du numérique au projet de rénovation ou de construction d'établissements scolaires, et qui a aussi pour but de collecter justement un certain nombre d'expériences, et au-delà, qui propose justement un accompagnement dans la réflexion pour penser l'école de demain.
Sur laquelle tout le monde peut aller?
Oui, tout à fait, à partir du moment où il y a un projet de construction, de rénovation de l'établissement scolaire.
Et j'en arrive à ma dernière question, je vais vous la poser à tous les trois. Est-ce que vous pensez que l'épisode que nous venons de vivre avec cette période sans école et puis ce retour progressif à l'école, est-ce que vous pensez que ce moment scolaire va changer l'école d'une manière ou d'une autre? Je commence avec vous, Régis Ferracci.
Alors, on ne pourra pas sortir indemne d'une telle épreuve, hein. Des transformations, elles vont apparaître. On a vu des besoins dans le numérique, dans l'enseignement à distance, surtout en maternelle, hein, s'il ne remplace pas le vrai vivant. Mais oui, il faudra se préparer à affronter peut-être plus tard, très tard j'espère, mais une nouvelle fois une crise identique. Donc on a les outils pour s'y préparer, on a une première expérience, il faut faire un retour d'expérience, c'est important, et intégrer peut-être justement cette dimension numérique qui a permis de garder quand même un lien fort entre les élèves et les enseignants.
Même en maternelle?
Y compris, oui, en maternelle. Hein, les enseignants, en tout cas mes enseignantes, ont continué à envoyer un petit peu du travail. Nous-mêmes, on a réalisé une chaîne vidéo hein, pour garder le lien visuel. On a utilisé les moyens dont on disposait avec nos connaissances, notre matériel, pour garder ce lien. C'était même quelquefois quelque chose de tout simple, hein, c'était de téléphoner tous les jours enfin, aux parents qui étaient dans la difficulté, mais garder le lien. Et c'est vrai qu'il faut maintenant, sur un retour d'expérience, peut-être prévoir des équipements, de la formation, et intégrer ce nouveau volet numérique un petit peu quand même dans l'école, un petit peu plus, via... Là, encore une fois, via les communes, puisque c'est elles qui seront chargées du financement. Et là, c'est un autre débat.
Un autre débat, mais pour vous, une nécessité. Cécile Rivière.
Je pense qu'on va peut-être prendre plus soin des espaces dédiés à la propreté, des espaces dédiés à à la récréation, pour voir, pour les aménager, pour pouvoir respecter maintenant cette espèce de distanciation qui, je l'espère, ne va pas perdurer trop longtemps.
Oui, parce qu'elle est difficile à respecter, puis elle n'est plus tellement respectée ailleurs qu'à l'école. Aujourd'hui, il suffit d'aller se promener dans un parc pour voir que voilà, les enfants ne sont pas très adeptes de la distanciation sociale. Julien Caron, l'école va-t-elle changer après ce que nous venons de vivre ?
Bon, cela apparaît en tout cas comme une nécessité, mais ce sera forcément un processus de moyen, voire de long terme, parce que l'histoire nous a montré que la question des constructions scolaires, c'était un processus très long, et nous montre aussi que l'évolution du bâti scolaire est en tout cas indissociable de celle des contextes sociaux et culturels. Donc on peut en tout cas espérer que la crise qu'on vient de vivre et de laquelle on est en train de sortir, puisse changer en tout cas la conception des futurs bâtiments scolaires.
Avec plus d'espace, par exemple, si on suit votre idée jusqu'au bout ?
Alors avec plus d'espace, je ne sais pas, ça paraît compliqué. On évoquait tout à l'heure cette question dans le cadre des écoles de plein air. Est-ce que c'est concevable aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible pour des établissements, ça suppose, hein, comme dans le cas de l'école maternelle qu'on évoquait tout à l'heure, de construire de plein pied. Est-ce que c'est possible dans un collège ? Est-ce que c'est possible dans un lycée ? Je ne sais pas. En tout cas, on peut se demander aussi, est-ce qu'on doit reproduire finalement le passé ou est-ce qu'on doit créer ou réinventer un nouveau modèle d'établissement ?
Merci de nous avoir offert cette conclusion, Julien Caron. Je rappelle que vous êtes historien de l'éducation à l'Université Picardie-Jules Verne. Avec nous aujourd'hui, il y avait également Cécile Rivière, co-commissaire de l'exposition « Bâtir l'école » avec Morgane Méhan et directrice adjointe du Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes, c'est dans les Hauts-de-Seine, ainsi que Régis Ferracci, directeur d'école au Canet, c'est dans les Alpes-Maritimes, et c'est une école maternelle. On se retrouve la semaine prochaine à 17h sur France Culture le dimanche pour un nouveau numéro d'Être et Savoir. Mais l'émission n'est pas terminée. Tout de suite, une nouvelle leçon de choses. Et si le sens du suspense naissait dès l'enfance ? Retour sur une enfance inquiète avec déjà une réflexion sur la normalité de la part de l'écrivaine Julia Deck. Elle est au micro de Sophie Bobert.
Je pense que j'ai toujours été un peu inquiète et l'inquiétude est allée grandissante, mais j'ai du mal à dire ça en des termes aussi définitif. Souvent, j'entends des gens dire qu'ils ont une enfance joyeuse ou une enfance triste. Je pourrais pas vraiment préciser ça en ces termes. Pour moi, c'était... Oui, j'avais l'impression de vivre un peu sur une île. C'était... Oui, je suis fille unique, donc je vivais avec mes parents. Et j'avais l'impression qu'on vivait un petit peu... En vase clos, pas complètement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de circulation chez mes parents, et puis il y avait la famille. Mais c'est vrai que oui, je pense que le trait principal, c'est que petite, j'ai fréquenté aucun enfant quasiment. Et j'ai fréquenté aucun enfant avant d'arriver à l'école maternelle. Et j'étais très très effrayée par les autres enfants. La compagnie des adultes me rassurait et les autres enfants, c'était... Je ne sais pas si c'était la peur de la concurrence, mais en tout cas, je me suis tenue à distance très très longtemps de mes semblables.
En tout cas, dans vos livres, Julia Deck, la question de l'identité, la question du mensonge, de la folie, affleure souvent l'esprit de vos personnages. Dans quelle mesure est-ce que ces questions-là, vous travaillez lorsque vous étiez petite ? À quel moment, vers quel âge, avez-vous commencé à vous poser des questions concernant l'approche possible de la folie ?
C'était plus tard quand même. La question de la folie, ça a commencé à m'intéresser, je dirais, à l'adolescence, la fin de l'adolescence au lycée, quand en philo, on a lu quelques textes de Freud. Évidemment, c'est ces cas de résolution miraculeuse, enfin de cure qui se résolvent miraculeusement. Ça ressemble un peu à des contes de fées pour adultes, d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, j'ai suivi un parcours scolaire extrêmement... extrêmement... ouais, j'étais bonne élève du début à la fin de ma carrière scolaire. Enfin, j'étais tout à fait dans les clous et j'ai jamais cherché à en sortir. Mais il y avait cette question de la folie qui, à l'adolescence, a commencé à m'interroger et ça m'a plus jamais quittée. C'est-à-dire, ouais, peut-être c'est ça. J'avais à la fois l'impression d'être dans une enfance très normale, dans un parcours très balisé, et puis en même temps, il y a cette inquiétude persistante et ce sentiment d'être un peu à côté, peut-être, de faire tout ce qu'il faut faire, et puis en même temps, il y a une partie de l'esprit qui échappe, quoi. C'est sûr que ce que j'essaye de recréer dans mes livres, c'est mon propre plaisir de... Ce que j'essaye de procurer au lecteur, ce que moi j'aime, le même plaisir que j'ai à regarder certains films ou à lire certains livres. Et c'est des émotions qu'on peut avoir enfant quand on entend les premiers contes de fées. C'est, voilà, on adore avoir peur parce qu'on adore être rassuré derrière, mais pour être rassuré, il faut avoir eu peur. Et le suspense, il tient à ça, il tient au mystère, il tient à cette quête d'un objet introuvable, et puis finalement l'objet n'a pas tellement d'intérêt. C'est toute la poursuite de l'objet qui est intéressante.
Qui vous rassurait, Julia Deck, lorsque vous aviez peur?
Qui me rassurait? Bonne question. Je pense que je suis assez capable d'auto-réassurance finalement.
Mais ce sens du suspense hein, qu'on retrouve dans vos romans, Julia Deck, qui vous l'a transmis?
La télévision et la bibliothèque rose. Alors par contre, autant les livres étaient extrêmement prisés, autant la télévision, c'était un interdit suprême. On n'avait pas la télévision, donc le truc qui m'intéressait, d'aller regarder la télévision chez ma grand-mère. Et j'ai pris un plaisir incroyable à regarder ces émissions totalement, ces feuilletons américains totalement interdits et en plus moralement répréhensibles hein, dans le milieu où je vivais.
C'était quoi? C'était Dallas? C'était Polar?
Oui, c'était cette époque-là. Ouais, je me souviens de ces espèces de téléfilms hollywoodiens avec des drames familiaux, des retournements incroyables. Mais ça, j'y pense encore consciemment quand je construis une histoire.
C'est... Dallas, Dynasty, c'est ça?
Ouais, plutôt Dynasty. Dallas, ils étaient pas bien habillés dans Dallas. Ça me convenait pas du tout. Mais Dynasty, ouais, j'ai une passion pour Dynasty. Je le regarde encore de temps en temps.
Ah, la famille Carrington dans Dynasty. On peut toujours regarder la série et même une suite depuis 2017. On peut surtout lire Julia Deck qui vient de publier Propriété privée. C'est aux éditions de Minuit. Retrouvez la leçon de choses la semaine prochaine dans Être et Savoir. Vous pouvez la podcaster tout comme l'émission ou tout comme notre podcast de confinement. L'école à la maison, c'est toujours dans Radiographie du coronavirus, un portail qui contient plein de contenus extrêmement intéressants. Je vous conseille de vous y rendre. En attendant, bonne soirée à tous sur France Culture. Après les informations, ce sera l'heure d'écouter Soft Power avec Frédéric Martel.